Sophie retourna s'asseoir à côté d'Alberto. Après une gorgée du liquide rouge, les choses vinrent se fondre à nouveau les unes aux autres. Même un peu trop, car tous les détails finissaient par s'estomper. Elle dut tremper sa langue dans la bouteille bleue pour que le monde redevienne à peu près comme il était avant l'arrivée d'Alice, avec les deux bouteilles. Mais qu'est-ce qui est vrai ? Demanda-t-elle à présent. Est-ce que c'est la bouteille rouge ou la bouteille bleue qui donne une vraie expérience du monde ? À la fois la rouge et la bleue, Sophie. Nous ne pouvons pas dire que les romantiques se soient trompés, car il n'existe qu'une seule réalité. Mais ils n'en ont retenu qu'un seul aspect. Et la bouteille bleue ? Kierkegaard avait dû en boire de grandes gorgées, à mon avis. Il défendait ardemment une conception individualiste. Nous ne sommes pas seulement les enfants de notre siècle. Chacun d'entre nous est une personne unique qui ne vit qu'une seule fois. Et Hegel ne s'était pas particulièrement intéressé à cette question ? Non. Il préférait considérer les grandes lignes de l'histoire, et c'est justement ce qui a irrité Kierkegaard. Le panthéisme des romantiques, tout comme l'historicisme de Hegel, noyait la responsabilité individuelle. C'est pourquoi Hegel, ou les romantiques, c'était selon lui du pareil au même. Je comprends que ça l'ait rendu malade. Søren Kierkegaard est né en 1813 et reçut de son père une éducation sévère. C'est de lui qu'il hérita un profond sentiment religieux. Ça n'a pas l'air très encourageant. C'est ce profond sentiment religieux qui le poussa à rompre ses fiançailles. Cela fut très mal perçu par la bourgeoisie bien-pensante de Copenhague, et il dut subir force moqueries et brimades. Il apprit petit à petit à répondre à ses détracteurs et se défendre, mais il devint ce que Ibsen a appelé un ennemi du peuple. Tout ça parce qu'il avait rompu ses fiançailles ? Pas uniquement. Vers la fin de sa vie, il se mit à critiquer violemment toute la culture européenne. Toute l'Europe s'achemine lentement vers la faillite, déclara-t-il. Il jugeait son époque sans passion et sans engagement, et ne supportait pas la tiédeur et le manque de rigueur de l'Église danoise luthérienne. Le christianisme du dimanche lui sortait par les yeux. On parle davantage de nos jours de christianisme de communion solennelle, à savoir que la plupart ne font leur communion que pour avoir plein de cadeaux. C'est là que le bât blesse. Pour Kierkegaard, la religion s'imposait avec une évidence telle qu'elle s'opposait à la raison et qu'il fallait faire un choix. C'était soit l'un, soit l'autre. On ne pouvait pas être un peu chrétien ou jusqu'à un certain point. Car soit le Christ était ressuscité le jour de Pâques, soit il ne l'était pas. Et s'il était vraiment ressuscité d'entre les morts, s'il était vraiment mort pour notre salut, cela était si extraordinaire que cela méritait bien de guider toute notre vie.
Je comprends.
Mais Kierkegaard se rendit compte que l'Église et la plupart des chrétiens avaient une vision un peu scolaire des problèmes religieux. Selon lui, la religion et la raison étaient comme l'eau et le feu. Il ne suffit pas de croire que le christianisme est vrai. La vraie foi chrétienne consiste à suivre les traces de Jésus-Christ.
Qu'est-ce que Hegel a à voir là-dedans ?
Bon, on n'aurait peut-être pas dû commencer par là.
Alors faisons marche arrière et reprenons tout depuis le début.
Kierkegaard commença à étudier la théologie dès l'âge de 17 ans, mais se passionna de plus en plus pour les problèmes philosophiques. À 27 ans, il obtint son diplôme avec sa dissertation sur le concept d'ironie en rapport avec Socrate, où il s'attaque à la conception romantique de l'ironie et à leur jeu facile avec l'illusion. Il voit dans l'ironie socratique l'opposé de cette forme d'ironie, car Socrate utilisait l'ironie comme moyen d'action afin de mettre en valeur la profonde gravité de la vie. Contrairement aux romantiques, Socrate était aux yeux de Kierkegaard un penseur existentiel, c'est-à-dire quelqu'un dont l'existence fait partie intégrante de sa philosophie.
Si tu le dis.
Après avoir rompu ses fiançailles avec Régine Olsen, Kierkegaard partit en 1841 pour Berlin, où il suivit entre autres les cours de Schelling.
Est-ce qu'il rencontra Hegel ?
Non. Hegel était mort 10 ans plus tôt.
Mais l'esprit de Hegel continuait de souffler pas seulement sur Berlin, mais sur presque toute l'Europe. Son système servait dorénavant de modèle d'explication pour des questions en tout genre. Kierkegaard trouva que les vérités objectives, prônées par la philosophie hegelienne, ne pouvaient aucunement s'appliquer à l'existence individuelle. Mais quel genre de vérité est essentielle alors? Il ne s'agit pas tant de trouver la vérité avec un grand V que de trouver des vérités qui concernent la vie de tout un chacun. Il importe de trouver ce qui est vrai pour moi. Il oppose donc l'individu au système. Selon lui, Hegel avait oublié qu'il était lui-même un homme. Le professeur hegelien par excellence est celui qui, du haut de sa tour d'ivoire, explique le grand mystère de la vie. Il a, dans sa distraction, oublié jusqu'à son nom et le fait qu'il est tout simplement un homme et non la brillante sous-partie d'un chapitre. Et c'est quoi un homme, selon Kierkegaard? C'est difficile de répondre par une généralité. Une description générale de la nature profonde ou de l'être de l'homme ne présente pour Kierkegaard aucun intérêt. C'est l'existence de chacun qui est essentielle, et l'homme ne prend pas conscience de son existence derrière un bureau. C'est dans l'action, et tout particulièrement face à un choix que nous avons à faire à notre propre existence. On peut illustrer cela par l'histoire qu'on raconte à propos de Bouddha. Bouddha? Oui. Car la philosophie de Bouddha, elle aussi a comme point de départ l'existence de l'homme. Il était une fois un moine qui trouvait que Bouddha n'apportait aucune réponse satisfaisante à des questions aussi essentielles que la nature du monde ou celle de l'homme. Bouddha répondit au moine en montrant du doigt un homme qui avait été blessé par une flèche empoisonnée. L'homme blessé ne demanderait jamais, par pur intérêt théorique, de quoi la flèche était faite, avec quel poison ou de quel angle elle avait été tirée. Il voudrait plutôt qu'on l'aide à retirer la flèche et qu'on soigne sa blessure. Oui, n'est-ce pas? Voilà ce qui se révélait existentiellement important pour lui. Bouddha, comme Kierkegaard, ressentait avec une grande intensité que son existence ne durait qu'un court instant. Et comme je l'ai déjà dit, dans ce cas-là, on ne s'installe pas derrière son bureau pour disserter sur la nature de l'esprit du monde.
Je comprends.
Kierkegaard dit également que la vérité est subjective. Ce qui, dans son esprit, ne revient pas à dire que toutes les opinions se valent, mais que les vérités vraiment importantes sont personnelles. Ce sont seulement ces vérités qui sont une vérité pour moi. Peux-tu donner un exemple de ce genre de vérité subjective? Une question fondamentale est celle de la vérité du christianisme. Impossible d'y répondre de manière théorique ou universitaire. Pour qui se conçoit comme un être pris dans l'existence, c'est une question de vie ou de mort. Ce ne peut en aucun cas être un sujet de discussion pour le simple plaisir de discuter, mais bien quelque chose que l'on tente d'approcher avec la plus grande passion et en son âme et conscience.
Je comprends.
Si tu tombes à l'eau, tu ne te poses pas des questions théoriques pour savoir si tu vas ou non te noyer. Ce n'est pas non plus intéressant ou inintéressant de savoir s'il y a des crocodiles dans l'eau. C'est une question de vie ou de mort.
Merci de la précision.
Il faut donc faire la distinction entre le problème philosophique de l'existence de Dieu et l'attitude individuelle face à la même question. Chaque homme se retrouve seul pour répondre à des questions de ce genre, et seule la foi peut nous permettre d'approcher ces problèmes fondamentaux. Les choses que nous pouvons savoir avec notre raison sont, selon Kierkegaard, tout à fait accessoires.
Non, il faut que tu m'expliques ça.
8 plus 4 égale 12, Sophie. Nous pouvons en être parfaitement sûrs. Voilà un exemple de ce genre de vérité déterminée par la raison dont ont parlé tous les philosophes depuis Descartes. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la prière du soir?
Mais la foi dans tout ça?
Tu ne peux pas savoir si quelqu'un t'a pardonné une mauvaise action, et c'est pourquoi c'est si important pour toi de le savoir. C'est une question qui peut t'accompagner toute ta vie. Impossible de savoir non plus si quelqu'un d'autre t'aime. Tu peux tout au plus le croire ou l'espérer,
Mais tu conviendras que c'est autrement plus important pour toi que de savoir que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Ou, si tu préfères, on ne s'interroge pas sur la loi de causalité ou les formes a priori de la sensibilité quand on reçoit son premier baiser.
Non, il faudrait être vraiment timbré.
Tout d'abord, la foi est essentielle pour tout ce qui concerne les problèmes religieux. Si je peux saisir Dieu objectivement, alors je n'ai pas la foi. Mais c'est justement parce que je ne peux pas le faire que je suis obligé d'avoir la foi. Et si je veux garder la foi, je dois veiller à rester dans l'ignorance objective, même par 70 mm de fond, et garder pourtant la foi.
C'est un peu lourd comme formule.
Beaucoup avaient auparavant essayé de prouver l'existence de Dieu, ou du moins de le concevoir par la raison. Mais si l'on accepte ce genre de preuve de Dieu ou d'argument de la raison, on perd la vraie foi et, partant, tout sentiment religieux intime. Car l'essentiel n'est pas de savoir si le christianisme est vrai ou non, mais s'il est vrai pour moi. Au Moyen Âge, on disait déjà « credo quia absurdum ».
Ah, vraiment ?
Ce qui signifie « je crois parce que c'est contraire à la raison ». Si le christianisme avait fait appel à notre raison, et non à d'autres aspects de notre personnalité, il n'aurait plus été une question de foi.
Ça, j'ai compris.
Nous avons donc vu ce que Kierkegaard entendait par « existence », par « vérité subjective », et ce que recouvrait pour lui le concept de « foi ». Ces trois notions déterminent une critique de la tradition philosophique, à commencer par celle de Hegel. Mais c'était aussi toute une critique de la civilisation. Car dans la société moderne, l'homme est devenu le grand public, ou la masse, et son signe distinctif est de pouvoir parler de tout et de rien. Nous dirions peut-être aujourd'hui que c'est le conformisme qui domine, c'est-à-dire que tous pensent et défendent la même chose sans avoir le moindre réel engagement vis-à-vis de cette chose.
J'étais en train de me demander si Kierkegaard n'aurait pas eu du fil à retordre avec les parents de Jørn.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas très indulgent envers ses semblables. Sa plume était acerbe et il savait manier l'ironie. Il pouvait lancer des formules incendiaires du genre « la foule est le contraire de la vérité » ou encore « la vérité est toujours du côté de la minorité ». La plupart des gens se contentaient de jouer à vivre sans se poser la moindre question.
Collectionner les poupées Barbie, c'est une chose, mais c'est presque pire d'être une vraie poupée Barbie soi-même.
Ceci nous amène à parler des trois stades sur le chemin de la vie.
Pardon ?
Kierkegaard considérait qu'il y avait trois attitudes possibles face à l'existence. Lui emploie le terme de stade. Le stade esthétique, le stade éthique et le stade religieux. En utilisant le terme de « stade », il veut aussi montrer qu'on peut très bien vivre au niveau des deux stades inférieurs et franchir soudain le fossé qui vous sépare du stade supérieur. Cela dit, la plupart des gens restent au même stade toute leur vie.
Je parie que je vais bientôt avoir droit à une explication. J'ai envie de savoir à quel stade j'en suis.
Celui qui vit au stade esthétique vit dans l'instant et recherche à tout moment son plaisir. Le bien est ce qui est beau, agréable ou plaisant. Vu sous cet angle, un tel homme vit entièrement dans le monde des sens. L'esthète est le jouet de ses désirs et de ses émotions. Est négatif tout ce qui est ennuyeux ou qui craint, comme on dit aujourd'hui.
Merci, je connais ce genre d'attitude.
Le romantique typique est donc le type même de l'esthète. Il ne s'agit pas seulement de jouissance des sens, mais l'attitude ludique vis-à-vis de la réalité, de l'art ou de la philosophie détermine le stade esthétique. Même les soucis et la souffrance peuvent être vécus et regardés d'un point de vue esthétique. C'est alors la vanité qui gouverne. Dans Peer Gynt, Ibsen a décrit le personnage du parfait esthète.
Je vois ce que tu veux dire.
Tu te reconnais ?
Pas tout à fait, mais ça pourrait correspondre au majeur.
Oui, après tout. Bien que ce soit de nouveau un vulgaire exemple d'ironie romantique.
À propos, tu devrais t'essuyer la bouche, Sophie. Qu'est-ce que tu as dit ?
Rien, ce n'est pas de ta faute.
Continue.
Quelqu'un qui vit au stade esthétique ressent rapidement un sentiment d'angoisse et de vide. Mais si tel est le cas, il y a aussi de l'espoir. Kierkegaard considère en effet l'angoisse comme quelque chose de presque positif, car elle est l'expression qu'on se trouve dans une situation existentielle. L'esthète peut choisir de faire le grand saut pour atteindre le stade supérieur, mais il peut aussi ne rien se passer. Cela ne sert à rien d'être sur le point de franchir le pas si on ne va pas jusqu'au bout. Il est question ici d'une alternative. Mais personne ne peut faire ce pas à ta place. Toi seul dois choisir.
Ça me rappelle quand on veut s'arrêter de fumer ou de se droguer.
Oui, un peu. Quand Kierkegaard parle de cette décision, cela fait penser dans une certaine mesure à Socrate qui avait montré que toute réelle prise de conscience vient de l'intérieur. Le choix qui conduira un homme à passer du stade esthétique au stade éthique ou à un mode de vie plus religieux doit aussi venir de l'intérieur. C'est ce qu'a décrit Ibsen dans Peer Gynt. L'écrivain russe Fyodor Dostoïevski nous a aussi donné une description magistrale de ce choix qui jaillit au cœur d'une profonde détresse intérieure et auquel est confronté le héros de son roman « Crime et châtiment ».
Tu veux dire que dans le meilleur des cas, on choisit une autre conception de la vie ?
Oui, et ainsi on passe au stade éthique. C'est un stade empreint de gravité et où l'on tente de vivre selon des critères moraux. Ce stade éthique n'est pas sans rappeler l'éthique du devoir chez Kant, quand il dit que nous devons suivre la loi morale en nous. Comme Kant, Kierkegaard fait appel à la partie sensible de l'homme. L'essentiel n'est pas de savoir très précisément ce que l'on considère comme étant juste ou faux, mais de choisir et d'agir en fonction de cette distinction. L'esthète, lui, ne s'intéresse qu'à savoir ce qui est amusant pour pouvoir laisser de côté tout ce qui est ennuyeux.
Est-ce qu'on ne finit pas par devenir quelqu'un d'un peu trop sérieux à vivre comme ça ?
Bien sûr que oui. Pour Kierkegaard non plus, le stade éthique n'est pas satisfaisant. L'homme de devoir finira par se lasser d'être si conscient de son devoir et de ne jamais faillir à la règle de vie qu'il s'est fixée. Beaucoup de personnes connaissent cette lassitude à l'âge adulte. C'est pourquoi certains retombent au stade esthétique où la vie ressemble à un jeu. Mais d'autres franchiront la dernière étape qui les conduit au stade religieux. Ils osent faire le grand saut dans les 70 000 mètres de fond de la foi. Au plaisir des sens et à l'accomplissement du devoir que leur dicte la raison, ils préféreront la foi. Et même si cela peut être terrible de tomber vivant entre les mains de Dieu, comme l'exprime Kierkegaard, l'homme trouve enfin là la réconciliation tant espérée avec lui-même.
Par le christianisme, donc ?
Oui. Pour Kierkegaard, le stade religieux, c'était le christianisme. Mais sa pensée eut aussi une grande influence sur des philosophes non chrétiens. Au cours du XXe siècle, se développa une philosophie dite « existentielle » qui s'inspira fortement de Kierkegaard.
Sophie jeta un coup d'œil à sa montre. « Il est presque 7 heures. Il faut vite que je rentre chez moi. Sinon, maman va me faire une de ces scènes. »
Elle fit un petit signe de la main au philosophe et courut vers le lac et la barque.